Donc l'année dernière, Guy Ménand nous avait fait le plaisir donc, d'introduire ces journées. Il a accepté de le faire cette année de nouveau. Je suppose que tu le fais, Guy, au titre de l'inspection générale, des inspections générales de sciences de la vie et de la terre et d'histoire géographique comme l'année dernière. Alors je sais que sur le papier que Sylvain va mettre en face de toi, c'est marqué IG Lyon. Donc apparemment, tu viens tellement souvent à Lyon que finalement, tu es inspecteur général sur Lyon. Voilà. Voilà, à toi, Guy.
C'est pour moi un plaisir et un honneur d'être lyonnais. Et ça, c'est un vrai plaisir, effectivement, de vous retrouver régulièrement sur un sujet qui nous occupe énormément et qui nous préoccupe même, parce qu'on aimerait bien que la géomatique prenne place de façon assez rapide dans les usages de nos collègues sur le terrain. Et quand je dis nous, c'est donc l'inspection générale de SVT et d'histoire géographie. Mon collègue Bruno Mélina et moi-même, comme je vous l'ai dit, nous suivons de très près les travaux qui concernent ce domaine. Il n'a pas pu être là, mais je le représente. Ce que je vais dire va concerner principalement mon domaine d'expertise, évidemment, mais vous allez voir que l'histoire-géographie peut se retrouver assez facilement dans ce que je vais vous expliquer maintenant. Donc, merci de m'avoir fait venir pour cette deuxième fois. À chaque fois que je viens dans ce type de réunion, de toute manière, j'en reviens avec le panier plein. Hein, donc, chacun dans ces circonstances découvre le travail des autres. La mutualisation est l'élément clé de ces réunions et de ces séminaires. Et puis, les VRP de l'éducation nationale, que sont les inspecteurs, en profitent pour enrichir leur bagage. Voilà. Alors merci monsieur le directeur, merci beaucoup, hein, de me donner l'occasion de participer à cette réunion et de prendre la parole devant vous. Un sujet qui nous occupe comme depuis très longtemps, nous collaborons avec l'INRP d'ailleurs. Je tenais à dire, en la présence de monsieur le directeur, à quel point cette collaboration qui est de très très longue date, a pour nous accompagné, en tout cas dans ma discipline, mais je pense que les collègues d'histoire-géographie ici seront d'accord et partageront ce sentiment, toutes les évolutions importantes de l'enseignement de nos disciplines ont associé à un moment ou à un autre l'INRP. Je suis personnellement porteur de tout ce qui concerne les TIS. Et dans ce domaine-là, très particulièrement, on peut dire que pas grand-chose se serait fait si plusieurs recherches de terrain n'avaient abouti à la réalisation d'outils qui se sont montrés très adaptés à l'usage, tellement adaptés à l'usage que, en laissant autant le temps, bien sûr. Ce n'est pas du jour au lendemain que les pratiques se sont généralisées, mais elles se sont suffisamment généralisées pour que ces outils apparaissent maintenant comme assez incontournables pour faire partie du bagage que l'on évalue en fin de terminale dans le cadre de l'épreuve que nous appelons entre nous épreuve d'évaluation des capacités expérimentales, mais qui en fait couvre un champ très large d'utilisation des différents outils des différents objets que l'on met entre les mains des élèves dans le cours de leur scolarité. Alors, merci Aline, merci, et encore une fois, c'est pas un propos de pure circonstance. Ceux qui me connaissent savent que j'ai du mal à pratiquer la langue de bois, donc si je le dis, c'est vraiment que je le pense. Voilà. Donc j'espère que cette collaboration va continuer. Alors elle se concrétise dans le travail d'aujourd'hui, et qui aujourd'hui est mis sur la sellette, plus exactement. J'ai personnellement un certain nombre de projets dans mes poches que, à l'occasion, je discuterai volontiers avec vous-même, monsieur le directeur, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Des projets où c'est net. Une réflexion en amont et une analyse critique de ce qui se passe sur le terrain sont nécessaires pour arriver à faire le tour de ce que les expériences innovantes que l'on a pu repérer ici ou là sont ou non généralisables. Alors, je reviens à la géomatique. Je ne vais pas vraiment quitter parce que tout ce que je viens de dire peut aussi en faire partie. Bruno Mélina et moi, sommes convaincus que il y a un rôle, que la géomatique a un rôle à jouer très rapidement dans l'enseignement, et ceci pour deux raisons. La première, c'est que de façon très, très, très évidente, elle a gagné l'espace public. Il n'y a pas une seule occasion où on peut montrer une carte actuellement sur l'ensemble des médias sans que cette carte soit directement sur un globe numérique. Et vous avez vu que maintenant, n'importe quel journal télévisé qui fait allusion à une partie du monde, avant la montrer sur une map monde avec les pôles complètement écrasés et déformés, comme vous savez, et maintenant, c'est directement sur un globe numérique avec la visualisation de la rotondité de la Terre. Et on tourne autour de ce globe pour arriver à l'endroit qui est cité par les journalistes. L'espace public, mes voisins, quand je vais chez eux, personnes retraitées, une fois sur deux, quand j'arrive, ils sont en train de regarder sur Google Earth. Donc vous voyez, ça, c'est ce qui se passe en dehors de l'école. Mais comme l'école a pour vocation de préparer les élèves à ce qu'ils vont vivre à l'extérieur, elle a aussi cette mission-là, de les préparer à l'usage de tout ce que les outils numériques peuvent apporter du point de vue de la cartographie. Alors, ceci dit, ça se fait. Ça se fait comme ça s'est toujours fait. Dès que quelque chose se met en place de nouveau dans le domaine public, une quantité de collègues de terrain qui assurent la veille, soit à titre institutionnel, soit parce que ça leur plaît, se précipitent pour essayer d'introduire ça dans leur pratique. Et je suis personnellement ravi de voir le fourmillement d'initiatives que l'on peut observer dans les établissements scolaires d'utilisation du numérique dans l'enseignement des sciences de la Terre et de la géographie. Du point de vue qualitatif, c'est déjà remarquable. Du point de vue quantitatif, par contre, ça l'est pas. Et c'est ce sur quoi je voudrais maintenant revenir un peu. Je vais approfondir cette idée-là. Parce que il ne suffit pas d'avoir de belles innovations pour que ces innovations induisent des évolutions dans les pratiques pédagogiques. À la fin de la session de l'année dernière, 5 questions avaient été retenues en bilan. Et ces 5 questions, vous les avez en ligne. Je les ai résumés ici. Quelle place pour les outils géomatiques dans l'éducation ? Donc, autrement dit, c'est la question autour de laquelle je tournais depuis le début de mon topo. Comment articuler l'utilisation de la géomatique avec des activités plus traditionnelles ? Quel rapport au terrain, à l'espace avec les outils géomatiques ? Quel type d'enseignement pour quels apprentissages ? Quel type d'activité élève organiser ? Et comment s'assurer de la rigueur scientifique ? Bon, je vous laisse lire. Ces 5 questions, si vous regardez bien, il y en a une. La première, qui est clairement en termes de stratégie générale, qui se pose une question de vocation. La géomatique, quelle vocation a-t-elle à pénétrer l'éducation nationale, à pénétrer les programmes, à pénétrer le système éducatif ? Derrière cette question, il y a clairement un objectif, un positionnement du groupe qui pose la question en termes de promotion, d'impulsion. Bon. Promouvoir, impulser. Et puis derrière, les questions suivantes sont déjà beaucoup plus opérationnelles. Elles s'interrogent clairement sur comment on va faire, le pourquoi et le comment. Ce qui m'a frappé quand on regarde le document lui-même, qui est en ligne, je vous conseille d'aller le regarder si vous ne l'avez pas déjà fait. C'est un document historique, puisque c'était la conclusion de l'année dernière et sur laquelle nous nous branchons aujourd'hui. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que ce qui est décrit et la façon dont c'est illustré, d'ailleurs, montre assez nettement qu'au-delà de la géomatique, et c'est un petit peu ce que disait M. Trouche tout à l'heure, ce sont des problématiques qui concernent l'ensemble des tisses que l'on retrouve. Regardez les images. Ça. Je vois des claviers, je vois des ordinateurs, je vois des élèves au travail. Ils sont studieux, ils sont appliqués. Mais tout ce qui est dit là n'est pas forcément uniquement spécifique de la géomatique. Alors, ça m'amène... à poser moi aussi, si l'ordinateur veut bien montrer la suite, voilà, à poser moi aussi des questions, et que je formule de façon un petit peu différente. Dans quelle mesure et à quelles conditions les outils facilitent-ils les apprentissages ? Je crois que c'est la question fondamentale. Et si l'ENRP a quelque chose à creuser, c'est en grande partie là. La généralisation d'une innovation ne se fait que dans la mesure où elle a convaincu de son utilité. Et la première mesure de l'utilité d'une innovation pédagogique, c'est de voir si les élèves en tirent un bénéfice direct. Ensuite, la deuxième question, c'est qu'une fois qu'on a fait la preuve d'un bénéfice, il faut que ce bénéfice soit tangible, important, vraiment important. Parce que si c'est simplement la cerise sur le gâteau, si c'est la valeur ajoutée infinitésimale dont on peut dire « oui, bon, il n'y a pas de doute, c'est vrai, effectivement, bon, d'accord, on a passé 3 semaines là-dessus, mais quand même, là, ce mot-clé là du programme, ils l'ont un petit peu mieux compris. » Bon, certes, mais en attendant, les élèves ont passé beaucoup de temps, et les professeurs, éventuellement, aussi. Donc, cette valeur ajoutée, ce que j'appelle l'efficience, il faut qu'elle soit mesurée en fonction de l'investissement. L'autre question, quelles modifications introduisent-ils dans la relation au savoir ? Et ça, vous voyez que, comme les deux précédentes, c'est l'ensemble des TIS qui est concerné par cette question. Et en géomatique, comme dans le reste, en fait, on fait travailler les élèves sur des outils numériques. Ce qui est important, à tout point de vue, quand on fait travailler les élèves sur des supports numériques, c'est qu'ensuite, ils soient capables de le faire tout seuls. Donc, un des atouts d'ailleurs, mesuré à l'échelle internationale, là où la valeur ajoutée est la plus évidente, c'est pas tellement sur les notions, ni sur les savoir-faire, sur les apprentissages fondamentaux qui sont inscrits dans les programmes des différentes disciplines. C'est pas tellement là qu'on voit de façon unanime la différence. On voit surtout que les élèves travaillent beaucoup plus seuls, et que de ce fait, ils travaillent plus, ils travaillent avec plus d'intérêt. Et ils deviennent plus autonomes. Or, nous avons besoin de construire des générations d'autonomes. Alors, là encore, pour que les élèves soient autonomes, il faut que les professeurs puissent les laisser travailler. Et pour qu'ils puissent travailler seuls, il faut que l'outil soit simple. Une autre question récurrente. Alors, ma discipline est très, très, très sensible à ça. Chaque fois que je fais la promotion d'un outil numérique ou d'une façon de faire utilisant les outils numériques, à chaque fois, il y a un nombre non négligeable de collègues qui me disent « Mais oui, mais bon, l'informatique va quand même pas tout remplacer. » Alors il y a le fantasme habituel de l'informatique va remplacer le professeur, ça rejoint ma question précédente sur l'autonomie. Mais il y a aussi le fantasme permanent de l'informatique écran contrôle réel. Les élèves vont prendre l'habitude de ne plus travailler que sur du virtuel, et au bout du compte, ils vont s'apercevoir que c'est tellement plus facile de travailler sur du virtuel, qu'on peut explorer le monde tellement plus facilement qu'en allant le voir directement, que petit à petit, professeurs et élèves risquent de s'installer dans un confort que peut leur offrir un outil numérique simple, celui que j'appelais de mes voeux depuis le début. Alors, il faut être très vigilant là-dessus. Et je vais insister sur cette opposition réelle-virtuelle, opposition apparente seulement. Parce que les cartographes que nous sommes tous ici, aussi bien géologues que géographes, aussi bien géographes que géologues, vous prenez ça dans l'ordre que vous voulez, de toute façon, on est la main dans la main. C'est-à-dire que dans le travail que nous faisons, il s'agit de comprendre le monde. Comprendre le monde, et pour comprendre le monde, il faut comprendre le monde tel qu'il est, pas sa représentation virtuelle. Nous avons tous l'habitude de travailler sur des cartes. Cartes topographiques, cartes géologiques, plans, cadastres. Nous travaillons sur des cartes. Ces cartes, on essaye de faire comprendre aux élèves qu'elles sont le résultat d'une interprétation du réel et qu'elles représentent des éléments qui ont été pris sur le réel. Pour qu'ils le fassent, pour qu'ils fassent ce parallèle, en permanence, notre stratégie pédagogique doit être d'aller et venir systématiquement entre la réalité et sa représentation. Il faut qu'ils sachent qu'une carte, ça se construit, que c'est un homme qui l'a fait à un moment donné et que éventuellement derrière elle utilise une machine, mais que c'est un homme qui est allé faire des mesures et faire des observations de terrain. Et le mieux, c'est de les habituer à réaliser des cartes. C'est à ça que le numérique peut servir. On peut réaliser des cartes beaucoup plus facilement. D'autre part, le numérique permet de franchir un pas très important. Je vous disais tout à l'heure, le globe. Je le dis souvent dans des circonstances analogues à celles d'aujourd'hui. Je suis persuadé que maintenant, plus personne ne se pose la question de savoir si la Terre est sphérique ou plate, alors que c'était un gros obstacle didactique il y a quelques siècles. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Parce qu'à force de ne voir que des cartes à l'échelle du monde plates, posées sur un mur, on ne se rend pas forcément compte de ne serait-ce que quel est l'itinéraire le plus rapide et le plus court pour aller d'un endroit à un autre, en passant par un grand cercle de cette fameuse sphère. Actuellement, nous en géologie, nous avons une difficulté majeure. Nous essayons de faire travailler les élèves sur la chronologie. Un des éléments de la chronologie, c'est la superposition. La superposition qui est un élément qui permet d'accéder au temps. Et la superposition sur une carte, ça ne peut s'interpréter, ça ne peut se comprendre qu'à partir de relations géométriques qui ne sont pas du tout évidentes. Qui coupe quoi ? Si vous juxtaposez ces considérations géométriques, si vous les mettez sur du relief, à ce moment-là, ce qui est au-dessus et ce qui est en dessous devient évident. J'en ai fait l'expérience à 2 ou 3 reprises. C'est quelque chose de très récent dans nos pratiques pédagogiques. C'est fabuleux. Là, la valeur ajoutée est immédiate, elle est évidente. On a déplacé un énorme obstacle didactique. Et puis, il y a autre chose. Donc, vous voyez, les élèves, à partir d'une représentation 3D, comprendront mieux ce qui est figuré sur la carte. Sur le terrain, ils voient des dispositions géométriques, ils voient des relations géométriques et spatiales. Ils les observent sur la carte. Ils les observent sur une carte en 3D et qui leur permet de passer plus facilement du paysage au plan. Et en plus, s'ils ont repéré des objets et qu'ils sont capables de les poser sur la carte, à ce moment-là, leur compréhension de ce que représente la carte est beaucoup plus immédiate. Et vous voyez, il faut donc qu'ils puissent aller du terrain au labo en gardant toutes les données qu'ils ont pu repérer, identifier. Je suis convaincu que les outils nomades pour ça sont là aussi un atout énorme et vont faire beaucoup avancer la pédagogie dans nos deux disciplines. Outils nomades, en particulier les tablettes PC et les GPS qu'on utilise directement sur le terrain. Alors, une question rapide sur laquelle je voudrais revenir. Enseigner les SIG. J'ai vu que c'est une question qui travaille plusieurs d'entre vous et qui va être abordée d'ailleurs dans un des ateliers. Enseigner, qu'est-ce qu'on fait ? On fait acquérir des compétences. Les compétences, vous savez, vous avez tous entendu parler du socle commun. Des compétences, c'est une association de connaissances et de capacités. Donc, quand on fait travailler des élèves sur des SIG, on leur fait effectivement acquérir des savoir-faire et des connaissances. Bon, c'est vrai, mais je voudrais qu'on essaye de se demander si c'est pertinent de concevoir les SIG comme un élément de programme ou si c'est un outil de travail. C'est une vraie question. Et de ce point de vue-là, je ferai volontiers une différence. J'espère que les collègues qui sont dans la salle sont représentatifs des deux domaines. Je ferai volontiers une différence entre les enseignements généraux, les enseignements technologiques, l'enseignement professionnel. C'est pas tellement que les uns s'approprient un des aspects et les autres un autre. Ce n'est pas que l'enseignement, les voies technologiques et professionnelles ne s'intéressent qu'aux gestes, alors que la voie générale ne s'intéresse qu'à l'esprit. Mais la pondération de l'un et de l'autre n'est pas forcément la même. Et ce qui est légitime d'approfondir un outil technique dans la voie technologique ou dans la voie professionnelle ne l'est pas forcément autant dans la voie général. Ce qui n'empêche pas qu'il faille quand même en avoir une exploration suffisante pour savoir ce que l'outil apporte. Pour moi, je vois plutôt les SIG comme un outil intégré dans les programmes, et intégré dans les programmes de plusieurs disciplines. La preuve, les disciplines qui sont là aujourd'hui. Alors, de ce point de vue-là, on a des leviers. Et là, je voudrais vous montrer quelque chose qui devrait vous ouvrir une fenêtre sur un levier important dans l'introduction des SIG et de la géomatique dans les programmes. De nouveaux programmes de collège viennent d'être publiés, vous les avez peut-être vus passer, ceux qui parmi vous enseignent en collège, des programmes dans les disciplines scientifiques en particulier, et qui essayent de mettre en forme les programmes par rapport au socle commun de connaissances et de compétences de l'enseignement obligatoire. Alors, je voulais juste vous montrer comment on a fait dans un des programmes de sciences de la vie et de la terre pour contourner en quelque sorte, en fait, disons, pour concrétiser. Je ne sais pas si c'est suffisamment visible et lisible. Concrétiser ce que je disais. Enseignement général, enseignement technologique, même combat, mais avec des pondérations différentes. N'empêche que les TIS sont maintenant dans le socle commun des connaissances et de compétences, et que les TIS apparaissent comme un des savoirs fondamentaux. Dire que c'est un savoir fondamental, ça ne dit rien de plus, c'est de la langue de bois, sauf si on considère que de ce fait, ça a une place fondamentale dans les programmes et que donc les professeurs doivent s'approprier le sujet. Donc les TIS ne sont pas seulement un outil au service d'eux, les TIS sont également un objectif de formation. Et la seule solution pour qu'ils le deviennent vraiment, c'est que les programmes affichent clairement que, toutes disciplines confondues, il y a des objectifs d'usage des TIS qui doivent être pris en compte par les professeurs. Et donc, ça veut dire une formation des élèves prise en compte par ces professeurs, une évaluation. Et vous voyez que là, pour l'enseignement, donc pour le programme de 4e de SVT, on a affiché un tableau avec des contenus de programme et en face des domaines du B2I. Et je vous montre ces deux rubriques. Contenu de programme. Différencier une situation simulée ou modélisée d'une situation réelle sur un logiciel de simulation, sur une base de données interprétée, par exemple carte, par exemple localisation de foyers sismiques. Et ceci en référence à un domaine du B2I. Ici, rechercher des informations dans des bases de données sur l'Internet en faisant preuve d'esprit critique face à l'information et à son traitement. Ces deux rubriques-là recouvrent très exactement, je trouve, en tout cas c'est pour ça que ça a été mis, le champ qui occupe la journée d'aujourd'hui. Alors vous voyez, quand tous les programmes de différentes disciplines auront fait ça, on peut dire qu'un grand pas aurait été franchi. Si vous rajoutez que le B2I en collège, et donc les rubriques qu'on vient de voir, vont être prises en compte dès le brevet 2008, et en 2009 avec le reste du socle, vous voyez l'ampleur de ce levier que représente l'affichage dans les programmes. Bon, d'autre part, mais ça Hélène et Michel Vauzel en parleront, des ressources sont mises en place, les enseignants, les concours de recrutement prennent en compte de plus en plus les SIG, et l'année de la planète Terre va être l'occasion d'en parler. Pour être efficace, il faut partir tout de suite. En décembre 2007, un séminaire va être réalisé pour les corps d'inspection de SVT pendant 2 jours et demi autour de l'usage des supports numériques dans l'enseignement des sciences de la Terre. Et vous vous en doutez, ce qu'on va faire aujourd'hui va tenir une large place. Je vais d'ailleurs faire mon marché, comme je disais, et recruter un certain nombre d'intervenants dans ce qui se sera passé aujourd'hui. Être efficace, c'est-à-dire que de la veille à l'expérimentation et à la diffusion, il faut le faire et vite. Identifier des pratiques généralisables, associer rigueur scientifique et simplicité, et puis faire confiance au terrain pour les applications, pour les adaptations fines. Autrement dit, le mieux est l'ennemi du bien. Si on attend trop, on ne fait rien. Donc même si ce n'est pas parfait, bah écoutez, moi je suis preneur, je vous l'ai dit, je monte un séminaire pour les collègues IPR, là en décembre. Merci.
Merci Guy pour cette introduction. Alors en fait, merci deux fois. On va peut-être libérer Serge Calab, donc directeur de l'INRP, qui doit avoir des choses importantes maintenant. merci deux fois donc à Guiménan, parce que d'abord il y a la mise en continuité de cette journée aujourd'hui qui vient donc qui est la continuité de la journée qu'on a eue l'année dernière, et c'était très intéressant que tu reprennes les questions qui avaient été posées l'année dernière et que tu cette fois-ci tu balises le travail des modérateurs dans les ateliers dans la journée, qui permettra donc de regarder un petit peu comment les questions que tu as posées peuvent être abordées à partir des présentations qui seront faites dans les ateliers. Alors on va revenir maintenant avec Sylvain Genevoix donc sur des problèmes pratiques avant d'attaquer la suite. La première chose que je voudrais faire, c'est d'abord remercier le comité d'organisation, ça n'a pas encore été fait. La journée est organisée en collaboration avec les inspections pédagogiques régionales de sciences de la vie et de la terre au travers de Pierre Josin, d'histoire-géographie au travers de Daniel Lepadeau-Madol, qui sont devant, qui ne sont pas levés, mais vous les verrez dans la journée. Je remercie également les Yantes histoire-géo SVT, qui sont Jacques Janin et Philippe Bria, qui sont également dans la salle que je ne vois pas, mais je vais les voir. Et puis bien sûr l'INRP, qui sont représentés par Sylvain Genevoix et moi-même.
Voilà, merci.
Alors, Sylvain, si je vais simplement afficher, avant de passer au programme, peut-être préciser les objectifs de la journée. Je vais être rapide parce qu'en fait, je crois que tout a été dit à travers l'introduction de Guy Ménant et du directeur Eductis et l'INRP. Alors. Bon, comme vous en doutez. Parce que c'est important aujourd'hui que tout marche bien, mon ordinateur a décidé de tourner très 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 lentement.
Bon, pendant qu'on lance l'application, juste quelques mots pour l'assistance. Donc merci à tous d'être présents. On est content pour cette deuxième journée géomatique. On a encore plus de monde que l'an dernier. On atteint presque 100 personnes. Merci à vous tous. Quelques mots quand même sur l'aspect pratique de la journée. Vous avez tous eu un programme normalement qui vous indique un peu les temps forts. Alors ce matin, nous avons donc deux petites conférences, l'une de la sous-direction TIS, donc Michel Vauzel et Hélène Ormière, qui vous présenteront donc les projets soutenus par la sous-direction TIS. Ensuite, nous présenterons rapidement avec Eric les résultats de la grande enquête qu'on a lancée, 800 réponses, donc on a commencé à faire des traitements, on vous donnera en primeur quelques-uns des résultats, on ne vous donnera pas tous les résultats parce qu'ils sont assez longs, mais on vous donnera quelques indications, quelques pistes, qui d'ailleurs vont tout à fait dans le sens de ce que Guy Ménant a commencé à vous faire miroiter un petit peu au niveau des usages actuels et de ce qui est en train de changer, notamment dans les deux disciplines de référence qui sont l'SVT et l'histoire-géographie. Et puis ensuite, nous nous séparons une partie de la journée en trois ateliers. Donc, pour l'instant, un petit sondage montre que la plupart d'entre vous sont inscrits sur les ateliers 1 et 2. On aimerait bien aussi d'avoir des gens sur les ateliers aussi, également 3, sachant que vous êtes libre de passer d'un atelier à l'autre. Mais bon, il faut éviter de zapper sur les 3. Essayez quand même de vous tenir à 2 ateliers maximum et essayez de couper entre le midi, le matin et l'après-midi. Essayez d'éviter de se lever en plein milieu de l'atelier, etc. Ça va être un peu compliqué. Alors, au niveau de l'organisation, l'atelier 1 a lieu dans cette salle, ici, la salle de conférence où vous êtes. L'atelier numéro 2 a lieu juste à côté, dans la salle de réunion qui s'appelle numéro 1. Vous avez des panneaux juste à l'entrée des salles pour vous rappeler les interventions. Et puis l'atelier numéro 3 aura lieu en salle de réunion numéro 2. Tout est au rez-de-chaussée et les 3 salles sont contiguës. Donc vous ne pouvez pas vous perdre. Ensuite, nous irons déjeuner et nous reprendrons les ateliers dès 14h pour être bien dans le respect de l'emploi du temps. De 14h donc à 15h30. Ensuite, il y aura une pause. Alors j'en profite pour rappeler que vous avez l'occasion, parce que c'est aussi une journée d'études, un moment d'échange, de rencontre. Ce ne sont pas que des conférences, des ateliers. Il faut qu'aussi vous puissiez vous rencontrer, parler entre vous de ce que vous faites. Un grand nombre d'entre vous sont des praticiens, font des choses, ont réfléchi à ce qu'ils veulent faire, ont fait des choses avec leurs élèves, etc. Donc c'est aussi un lieu de rencontre. Et donc il y aura entre midi et 2h et il y aura à la pause à 15h30 des moments de démonstration et d'échange qui auront lieu dans les 3 salles, avec la possibilité de vous connecter, de mettre vos ordinateurs portables, etc. Donc vous aurez des temps libres, on va dire, pour échanger entre vous. On reprendra ensuite pour une table ronde qui clôturera la journée à partir de 16h, donc pour essayer de synthétiser d'une part tout ce qui a été dit. On a mis un observateur par atelier, il y aura des retours d'atelier et également nous ferons petit échange avec la salle pour essayer de définir un petit peu des objectifs communs. L'an dernier, nous avions défini 5 questions pour l'éducation. Cette année, on aimerait bien également réfléchir un peu aux usages et aux perspectives de la géomatique au vu de tout ce que vous aurez réfléchi dans la journée. Donc on n'anticipe pas sur cette table ronde, mais vous verrez à ce moment-là. Voilà, donc Eric va rappeler les objectifs peut-être de la journée quand même. Pour qu'on
oui, un point pratique. D'abord, pour le repas, donc ça va se passer de l'autre côté du jardin. Donc vous aurez à traverser notre jardin pour arriver au réfectoire. Dans le réfectoire, nous avons une salle qui est réservée, ce qui fait qu'on pourra manger entre nous, on pourra discuter encore géomatique au repas de midi.
Voilà.
Alors, sur les objectifs de cette journée, on les a avec Sylvain donc listés en quatre points. Bon, c'est d'abord un moment de rencontre, rencontre entre des personnes qui ont des responsabilités différentes du point de vue d'utilisation de ces outils dans la classe. C'est également un moment de découverte, de pratique. Donc c'est pour ça que les personnes qui vont présenter des choses sont pour la plupart d'entre elles des personnes qui présentent des expérimentations ou des essais, des innovations dans leur propre classe. On va essayer donc de travailler sur l'identification de questions qui sont posées par ces usages, mais je crois que Guy Ménant a déjà bien posé les choses. Et puis essayer de dégager collectivement les enjeux et les perspectives pour avancer. Donc il ne s'agit pas d'une journée de formation, mais il s'agit d'une journée au cours de laquelle des personnes qui, à des titres divers, sont intéressées par ce thème de l'introduction de la géomatique dans la classe, vont essayer de phosphorer pour arriver à avancer pour la suite.